France Culture, la salle des machines, Mathias Sénard.
Réveille-toi, ville sacrée, dans ton orgueil et ton amour, la sainte famille est rentrée, les exilés sont de retour, les exilés sont de retour, oh les voici, victoire, victoire, qu'il soit fêté dans sa maison. L'enfant prodigue de la gloire, Napoléon, Napoléon. Avec les mamelucs, les guides, l'Annemura, l'état-major, l'Annemura, l'état-major, lui portait la capote grise, le sabre turc, le chaperon, avec cette seule devise, Napoléon, Napoléon. Sur nos places, dans nos rues, l'on entend plus que ce nom, du fond du cœur jusqu'aux oreilles, Napoléon.
Forest, bonsoir. Vous avez reconnu cette chanson toute brûlante de ferveur impériale composée par Jean-François Costa, qui fut sous-préfet de Sartène à l'occasion de l'abrogation en 1840 seulement de la loi qui frappait d'exil les descendants de Napoléon Bonaparte, l'Ajaccienne, chantée par Tino Rossi.
Ah ben je suis impardonnable de ne pas connaître cette chanson parce que Tino Rossi était le chanteur préféré de ma mère, donc ça me semble être pour cette raison-là au moins un excellent choix. On aurait pu mettre Serge Lama aussi, Serge Lama qui a composé et présenté il y a bien longtemps maintenant une comédie musicale qui a été consacrée à Napoléon. Lorsque je co-dirigeais la Nouvelle Revue Française il y a quelques années, on avait fait un numéro spécial consacré aux variétés et j'étais allé interviewer Serge Lama et on avait parlé bien sûr un petit peu de Napoléon.
Philippe Vorest, vous êtes non seulement professeur de littérature et un brillant essayiste, mais aussi un romancier célébré. On vous doit le très beau Sarinagara, par exemple, en 2004, ou Le siècle des nuages, roman d'aviation, en 2010. Vous êtes un spécialiste de la revue Telle Quelle et de l'œuvre de Philippe Solers, et vous avez obtenu il y a peu le prix Goncourt de la biographie pour une magistrale biographie de Louis Aragon. Et là, ces jours-ci, surprise, Napoléon, la fin et le commencement paraît aux éditions Gallimard. Comment vous êtes venu cette idée? Pourtant, vous n'êtes pas 19e-iste.
Pas du tout, et la surprise dont vous parlez a d'abord été la mienne, parce que je n'aurais jamais osé me lancer dans un tel projet si on ne me l'avait pas proposé. Les choses se sont passées comme ça. Rana Levy, qui dirige la collection des biographies chez Gallimard, qui donc avait publié la biographie d'Aragon à laquelle vous venez de faire allusion, me demandait depuis quelques années de lui donner un deuxième livre. Bon, aucune idée ne s'était véritablement présentée, et un jour il m'a demandé de venir le voir dans son bureau, et il m'a dit « j'ai une proposition à vous faire, mais vous allez sans doute tomber de votre siège ». Et donc la proposition, c'était celle-là. Il y a cette collection donc qui s'intitule « Des hommes qui ont fait la France », dans laquelle ont paru déjà un Jules Ferry par Mona Ozouf, un Robespierre par Marcel Gauchet, un Vinocq par un De Gaulle pardon par Vinocq. Et Rana Lévy m'a demandé est-ce que vous voulez faire un Napoléon. Alors j'ai d'abord répondu non parce que c'était quelque chose de très éloigné de moi. Et puis je suis sorti, donc j'étais boulevard Saint-Germain quelques minutes après et je me suis ravisé. J'ai envoyé un texto à Rana Lévy pour lui dire que finalement pourquoi pas, parce que c'était intéressant pour moi de tenter quelque chose de très différent. Il m'avait proposé de faire éventuellement un ouvrage dans cette même collection qui aurait été consacré à un grand écrivain français, mais des ouvrages sur des écrivains, j'en ai déjà fait beaucoup, tandis que là, c'était vraiment quelque chose de neuf pour moi, donc j'ai dit oui. Je ne sais pas si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort, mais enfin, en tout cas, le livre est là.
Et qu'est-ce que vous vous êtes imaginé quand on vous a posé cette question, et que vous avez répondu par l'affirmative? Quel aspect du personnage de Napoléon vous a décidé à entreprendre cette brève biographie littéraire?
Mais justement, ça a tourné dans ma tête, tandis que je m'éloignais du bureau de Rana Lévy. Je me suis dit, cette collection, elle s'intitule « Des hommes qui ont fait la France ». Alors, est-ce que Napoléon a fait la France ou pas? Je me suis dit, on pourrait très bien dire qu'il l'a défaite plutôt qu'il ne l'a faite. Et je me suis dit que peut-être il y avait moyen de raconter toute l'histoire, ce qui n'est pas... très original forcément, mais qui était un angle d'attaque possible. Il y avait moyen de raconter toute cette histoire en partant de la fin, c'est-à-dire en partant de Waterloo. Et donc, à partir de là, comme ce sont des ouvrages assez minces, enfin ça fait 150 ou 200 pages, je crois, il faut trouver, bien sûr, un moyen de revisiter la vie de Napoléon sans en proposer un récit qui serait un récit linéaire, comme on en trouve partout. Et donc je me suis dit que c'était à partir de cette question de la fin et du commencement qu'on pouvait peut-être reprendre les choses, ce que j'ai fait, d'où le titre.
La fin et le commencement. Le commencement, on vient de l'entendre, hein, Ajaccio qui accueille... Dans la chanson de Tino Rossi, le retour de la Sainte Famille, nous dit-on, de cette famille de Bonaparte, de retour d'exil au milieu du 19e siècle. Et la fin, Waterloo. Alors évidemment, Waterloo, c'est aussi et surtout parler de littérature, puisqu'on se rend compte en vous lisant que Waterloo, c'est un des lieux communs de la littérature française et pas que au 19e siècle.
Oui, parce que il fallait aussi que j'aborde les choses d'une manière qui ne m'était pas totalement étrangère. Donc c'est essentiellement ce livre, un Napoléon vu au miroir des grandes œuvres littéraires du passé. Donc puisque je commence par Waterloo, je commence aussi par Victor Hugo et par les nombreuses pages que Victor Hugo a consacrées à la défaite napoléonienne. Il y a bien sûr les poèmes que l'on connaît, mais il y a surtout le passage des Misérables par lequel commence non pas le roman, mais commence l'histoire, puisque Thénardier figure sur ce champ de bataille où il va sauver la vie d'un personnage qui jouera un rôle donc dans la suite de l'histoire. Voilà. Il n'y a pas seulement Victor Hugo, il y a Stendhal aussi, il y a la Chartreuse de Parme, il y a beaucoup d'autres écrivains, mais ça me semblait important de commencer par Victor Hugo, de commencer par la fin avec Victor Hugo, disons.
Et tous ces récits, vous nous dites que ce soit Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme, Le Comte de Monte Cristo, tous ces récits, dites-vous, dépendent de manière bien sûr différente, mais dépendent du désastre de Waterloo, avec lequel la France semble se défaire et finir, et dont tous ces livres font pourtant comme s'il s'agissait aussi d'un commencement, le fondement, plus ou moins apparent, l'explicite ou implicite point de départ de leur fiction.
Oui, je m'inscris dans l'après-coup de cette défaite, comme l'ont fait tous ces écrivains et bien d'autres que vous venez de nommer. Ça n'est pas une vision, je ne peux pas le prétendre, ça n'aura aucun sens, ça n'est pas une vision tout à fait originale. Disons que c'est la vision romantique de Napoléon qui a prévalu pendant une bonne partie du 19e siècle. Hein. Écrire sur les ruines de l'Empire, donc dans le souvenir de la gloire disparue de l'Empire, soit dans la perspective de porter le deuil de cette gloire disparue, soit au contraire dans la perspective d'envisager la renaissance possible de cette même gloire. Voilà un peu le parti pris qui a été celui de la plupart des grands écrivains du 19e siècle auxquels je me réfère.
Alors qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse plus à Waterloo qu'à la campagne de Russie, par exemple? Finalement, la vraie fin de Napoléon, on pourrait aussi la dater de la Bérézina. C'est un peu le moment, en tout cas, où tout s'achève, presque.
Oui, ou la bataille d'Eylau, par exemple, ou bien sûr le crépuscule à Sainte-Hélène. Ce qui m'a intéressé, et c'est toujours ce fil directeur que j'ai essayé de suivre pour revisiter l'histoire d'une manière un peu différente, c'est une histoire qui n'en finit pas de finir et qui n'en finit pas de commencer ou de recommencer. Donc je raconte en quelque sorte les différentes manières dont l'histoire de Napoléon a fini. Et ce sont ces manières qui permettent à cette même histoire de recommencer sans cesse avec chacun de ceux qui vient rêver sur le souvenir de Napoléon. Parce qu'il y a cette question que j'aborde aussi dans un des chapitres, de savoir, et c'est la question que vous me posez en fait, quand finit l'histoire de Napoléon? Certains prétendent que tout est fini déjà au moment où Bonaparte prend le pouvoir, hein, le coup de Brumaire. C'est en quelque sorte la thèse de Stendhal. D'autres envisagent que Napoléon trahit Bonaparte au moment où il fait assassiner le duc d'Enghien. C'est la thèse de Chateaubriand. Et puis il y a bien sûr, et c'est plutôt d'ailleurs là-dessus que Stendhal, je me trompe, insiste, la faute suprême qui a été la faute du couronnement impérial. Donc voilà, c'est une histoire qui n'en finit pas de finir et qui n'arrête pas de commencer. C'est ce que j'ai essayé de montrer.
Et vous-même, quel est le texte, en tout cas l'auteur ou la vision de Napoléon qui vous a le plus surpris ou le plus fasciné?
Oh bah, je crois que ma préférence va quand même à Chateaubriand, parce que c'est un monument énorme que les Mémoires d'Outre-Tombe, avec ce livre à l'intérieur du livre dans lequel Chateaubriand vient raconter la vie de Napoléon et se mesurer en quelque sorte à lui. Donc je mettrai quand même à part Chateaubriand, mais j'ai lu ou relu toute une série de livres d'écrivains consacrés à Napoléon qui m'ont beaucoup intéressé, hein, disons de Léon Blois et Élie Faure pour le début du XXe siècle, à Jean-Paul Kaufmann ou Jean-Marie Rouart pour nommer des auteurs plus récents. Mais bon, je pense que les deux écrivains qui se taillent, comme on dit, la part du lion dans le livre, ce sont Chateaubriand et Hugo.
Oui, Élie Faure, vous avez d'ailleurs des phrases extrêmement élogieuses pour le style d'Élie Faure et cette histoire de l'art, ce qui m'a donné une très forte envie de lire ces textes dont j'ignore tout.
Ah oui, c'est un très grand écrivain, enfin à sa manière en tout cas, mais moi je l'ai découvert il y a longtemps parce que rappelez-vous, c'est lui que cite Jean-Luc Godard au début de Pierrot le Fou, quand Belmondo lit à sa petite fille qui est en train de prendre son bain, de manière totalement étrange d'ailleurs, un certain nombre de pages qui sont consacrées à Velázquez. Ça, c'est dans l'histoire de l'art de Élie Faure. Il y a aussi l'esprit des formes, c'est un écrivain qui admire aussi Céline, et auquel Malraux doit beaucoup. Bon, son livre sur Napoléon est complètement délirant, et j'essaye de le montrer, mais Napoléon invite, incite au délire et justifie la manière dont on peut délirer à son propos.
Et pour revenir à Chateaubriand, avant d'avancer un peu plus dans le XXe siècle, on a cette impression, en lisant les Mémoires d'Outre-Tombe, que Chateaubriand était à la fois fasciné par Napoléon, dont il ne peut pas, disons, faire l'économie, mais en même temps que pour lui, Waterloo, 1815, il est sous son arbre, en train de lire un livre, en écoutant au loin le son du canon. Finalement, il y a quand même quelque chose là-dedans qui ne le concerne pas vraiment.
Je ne sais pas vraiment si je dirais ça. Moi, ce que je souligne surtout dans le livre, c'est à quel point Chateaubriand se mesure véritablement à Napoléon. Et il n'est pas le seul, hein. Hegel fait à peu près la même chose au moment de Iéna, mais comme si finalement il s'agissait pour les grands écrivains ou les grands penseurs de l'époque d'engager une sorte de dialogue, on pourrait même dire de face à face ou de duel avec Napoléon. Chateaubriand veut se mesurer véritablement à Napoléon. Il explique qu'il a soutenu Bonaparte au moment du consulat. Et bon, sans doute que c'est parce que Bonaparte n'a pas estimé Chateaubriand à la manière dont Chateaubriand espérait qu'il le serait, que Chateaubriand s'est progressivement écarté de Napoléon, et notamment après l'assassinat du duc d'Enghien, mais il y a quand même cette relation très forte que l'écrivain veut nouer avec l'homme d'État. Je cite ce mot de Napoléon qui est assez amusant, je trouve, parce que Napoléon avait le sens de l'humour, et dit « Mon problème, ce n'est pas d'acheter M. de Chateaubriand, mais de le payer au prix qu'il s'estime. » Voilà. Bon, ben, je crois que ça résume un peu le malentendu qui a séparé les deux hommes, mais qui n'a jamais été tel que Chateaubriand se serait désintéressé de Napoléon, voire d'ailleurs, je sais pas, ça fait peut-être une centaine de pages selon les éditions, le long livre à l'intérieur du livre, donc, que les Mémoires d'Outre-Tombe consacrent à l'histoire de Bonaparte.
Oui, alors un autre personnage extrêmement napoléonien, bien sûr, c'est le colonel Chabert. Donc on doit aussi à Napoléon énormément de monuments de cette littérature française du 19e siècle.
Ah oui, très, très grand roman. Il y a aussi le médecin de campagne qui date à peu près de la même époque et dont je parle. Et là encore, Balzac se mesure comme Chateaubriand à Napoléon. La légende, je sais pas si elle est vraie ou pas, raconte que Balzac possédait une statue de l'empereur sur laquelle il avait écrit « Ce qu'il n'a pu accomplir par l'épée, je l'accomplirai par la plume ». Voilà. Tous ces gens-là se rêvent en Napoléon, ils se prennent pour Napoléon. Simplement à la manière des mythomanes et des autres malades mentaux qui finissent dans les asiles, ils font de cette folie qui s'empare d'eux la base à partir de laquelle ils développent de grands livres, comme par exemple le colonel Chabert. D'ailleurs, je commence le livre en imaginant Balzac revenant à Paris et observant dans une rue du 13e arrondissement une fresque assez étrange inspirée lointainement du Napoléon de David. Voilà, donc ce sont ces écrivains que je fais en quelque sorte revenir pour raconter l'histoire à ma place ou en tout cas avec moi.
Ce qui est aussi très surprenant, c'est ce qu'on découvre, enfin en tout cas que j'ai découvert, de Sigmund Freud et de sa vision et sa lecture de Napoléon.
Oui, moi aussi j'ai découvert ça à mesure que je lisais, à mesure que je fouillais dans les documents et les archives. Il y a une lettre donc de Freud à Thomas Mann, dans laquelle... En raison du livre que Thomas Mann a consacré à la figure biblique de Joseph, Freud explique que tout le destin de Napoléon est commandé par les relations compliquées qu'il a eues avec son frère aîné Joseph, dont il a pris en quelque sorte la place, tout en éprouvant donc la culpabilité qui a été la sienne à usurper le rôle d'aîné qui en principe ne lui appartenait pas. Donc à partir de là, Freud en quelques pages propose une démonstration dont je ne sais pas si elle est très convaincante, mais qui en tout cas est assez séduisante et amusante, psychanalysant ainsi Napoléon. Ce qu'ont fait d'autres après Freud, je cite notamment un livre très oublié d'un certain René Laforgue, qui a un certain nombre de défauts, mais aussi qui permet de bien comprendre quand même ce nœud très particulier dans lequel Napoléon se trouve pris et qui va le conduire à chercher lui-même en quelque sorte une défaite qu'il aurait pu très raisonnablement éviter. C'est le complexe de l'échec tel que Laforgue notamment l'analyse en prenant appui aussi sur Freud.
Et ce qui est passionnant, et donc c'est l'ordre que vous avez choisi, le commencement à la fin d'abord, pour mieux retrouver le commencement. Et alors où commence justement Napoléon, où commence Bonaparte ?
Je cite en épigraphe du livre une phrase que j'ai beaucoup aimée, qui se trouve, c'est inattendu aussi, je pense, dans un des films de Carnet et Prévert que je préfère, même si c'est l'un des moins connus. C'est le dernier film qu'ils ont réalisé ensemble, qui s'intitule « Les portes de la nuit ». Et à un moment, vous avez le destin, qui est joué par Jean Villard, et qui interprète tout au long du film la rengaine des feuilles mortes. Le destin donc se rend auprès d'Yves Montand, qui est le personnage principal du film, et lui dit la chose suivante: si Napoléon n'était pas mort à Sainte-Hélène, peut-être n'aurait-il jamais vu le jour à Ajaccio. Enfin, c'est une manière de raconter l'histoire à l'envers, et de se demander effectivement, pour en revenir à votre question, par où elle commence. À Ajaccio, disent tous les turiféraires d'un Napoléon qu'ils envisagent comme étant essentiellement corse, Bon, je ne veux pas me fâcher avec les Corses, encore que je me rends très rarement dans l'île, donc je ne risque pas grand-chose. Mais bien sûr, Napoléon était Corse, mais lui-même, il a toujours minoré ou relativisé l'importance que les autres accordaient à ses origines. Et quand on demandait à Napoléon quand il était véritablement né, en quelque sorte, quand son histoire avait vraiment commencé, et il répondait systématiquement « Brumaire ». Et c'est par ce moment-là, par ce coup de force, que Napoléon, enfin qu'on appelle encore à l'époque Bonaparte, accède à une forme d'existence. Il s'invente lui-même de manière un peu héroïque, souveraine. Et comme je le dis dans le livre, on se trompe totalement, à mon sens, lorsqu'on veut faire de Napoléon quelqu'un qui aurait exalté une certaine idée de l'identité nationale en termes d'origine, en termes d'enracinement. Non, Napoléon est vraiment un fils de la Révolution, c'est-à-dire il pense qu'on devient français parce qu'on le veut, et c'est la volonté plus que les déterminations liées à la naissance qui comptent dans ce domaine-là.
Ce qui compte aussi, c'est sa formation, et notamment à Brienne. C'est là qu'il devient, enfin, c'est ce que vous racontez dans le livre, hein, c'est un peu là qu'il commence justement à devenir Bonaparte.
Oui, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'il insiste. Il dit « Je ne suis pas Corse, j'ai vécu seulement les premières années de ma vie en Corse, c'est en France que j'ai acquis l'éducation qui a fait en partie de moi, dit-il, ce que je suis devenu. » Alors après, il y a toutes sortes de légendes, bien sûr, qui se sont développées dans la célèbre et celle qui concerne la fameuse bataille de Boule de Neige qui aurait été livrée par Napoléon et ses camarades. Voilà, Napoléon riait de tout cela, parce que Napoléon, et c'est ce qui le rend sympathique, je trouve, en dépit des nombreux reproches qu'on peut également lui adresser, des nombreuses critiques qu'on peut lui faire, Napoléon est quelqu'un qui n'était absolument pas dupe de sa propre légende, me semble-t-il, un peu mégalomane, mais il ne se prenait pas pour Napoléon, à la différence de bien d'autres qui sont venus après lui.
Et vous, Philippe Forest, aussi l'écrivain et le romancier que vous êtes, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous conservez, à part évidemment ce livre, de ce personnage de Napoléon ?
Ah ben, ce qui me séduit, mais là encore, la position que j'exprime n'est pas très originale, hein, c'est ce que Napoléon nous dit de ce que c'est que le destin d'un homme. Il y a véritablement chez Napoléon, du début à la fin, une méditation sur cette énigme du destin. Comment devient-on ce que l'on est? Comment parvient-on au sommet? Et comment désire-t-on peut-être inconsciemment ou pas la chute à laquelle on aboutit? C'est une formidable méditation sur la condition humaine, portée en quelque sorte à son paroxysme. Donc, à Napoléon le disait lui-même, hein, à Sainte-Hélène, encore que la citation soit peut-être apocryphe, quel roman pourtant que ma vie. Voilà, toute vie, et ça, puisque vous m'interrogez en tant que romancier, c'est quelque chose à quoi j'ai souvent été amené à réfléchir à travers mes propres livres, toute vie n'existe que sous la forme que lui donne le roman que chacun d'entre nous lui donne, avec ces mêmes questions de la fin, du commencement, du sens, de la manière dont un récit se raconte. Bon, tout ça, bien sûr, concerne dans ce livre Napoléon, mais fait sens pour moi par rapport aux autres livres que j'ai pu écrire précédemment.
Toute vie n'existe que par le roman. Merci beaucoup, Philippe Forest. Bientôt merci. La fin de la pandémie. À vous, les cavalcades impériales et les reconstitutions de batailles sabre au clair. Merci beaucoup.